Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au début de notre lecture du jour, Tartarin de Tarascon, que nous retrouvons dans le livre écrit par Alphonse Daudet, est bien parti pour aller chasser le lion. Mais en ce moment, c'est plutôt la recherche d'une mauresque qui a touché le cœur du grand chasseur qu'il voulait retrouver. Partons avec lui à sa recherche. Chapitre 8. Lion de l'Atlas dormait. Lion de l'Atlas dormait. Dormez tranquille au fond de vos retraites, dans les aloès et les cactus sauvages. De quelques jours encore, Tartarin de Tarascon ne vous massacrera point. Pour le moment, tout son attirail de guerre, caisse d'armes, pharmacie, tente-abri, conserve alimentaire, repose paisiblement emballé à l'hôtel d'Europe dans un coin de la chambre 36. Dormez sans peur, grand lion roux. Le Tarasconnais cherche sa mauresque. Depuis l'histoire de l'omnibus, le malheureux croit sentir perpétuellement sur son pied, sur son vaste pied de trappeur, les frétillements de la petite souris rouge, et la brise de mer en effleurant ses lèvres se parfume toujours, quoi qu'il fasse, d'une amoureuse odeur de pâtisserie et d'anis. Il lui faut sa maugrabine. Mais ce n'est pas une mince affaire. Retrouver dans une ville de 100 000 âmes une personne dont on ne connaît que la laine, les pantoufles et la couleur des yeux, il n'y a qu'un Tarasconnais féru d'amour capable de tenter une pareille aventure. Le terrible, c'est que sous leur grand masque blanc, toutes les mauresques se ressemblent. Puis, ces dames ne sortent guère. Et quand on veut en voir, il faut monter dans la ville haute, la ville arabe, la ville des teurs. Un vrai coupe-gorge, cette ville haute. De petites ruelles noires très étroites, grimpant à pic entre deux rangées de maisons mystérieuses dont les toitures se rejoignent et font tunnel. Des portes basses, des fenêtres toutes petites, muettes, tristes, grillagées. Et puis, de droite et de gauche, un tas d'échoppes très sombres où les teurs farouches, à tête de forban, yeux blancs et dents brillantes, fument de longues pipes et se parlent à voix basse comme pour concerter de mauvais coups. Dire que notre Tartarin traversait sans émotion cette cité formidable, ce serait mentir. Il était au contraire très ému, et dans ses ruelles obscures, dont son gros ventre tenait toute la largeur, le brave homme n'avançait qu'avec la plus grande précaution, l'œil aux aguets, le doigt sur la détente d'un revolver, tout à fait comme à Tarascon, en allant au cercle. À chaque instant, il s'attendait à recevoir sur le dos toute une dégringolade de nuques et de janissaires, mais le désir de revoir sa dame lui donnait une audace et une force de géant. 8 jours durant, l'intrépide Tartarin ne quitta pas la ville haute. Tantôt, on le voyait faire le pied de grue devant les bains morts, attendant l'heure où ses dames sortent par bandes, frissonnantes et sentant le bain. Tantôt, il apparaissait accroupi à la porte des mosquées, suant et soufflant pour quitter ses grosses bottes avant d'entrer dans le sanctuaire. Parfois, à la tombée de la nuit, quand il s'en revenait, navré de n'avoir rien découvert, pas plus au bain qu'à la mosquée, le Tarasconnais, en passant devant les maisons mauresques, entendait des chants monotones, des sons étouffés de guitare, des roulements de tambour de basque et des petits rires de femmes qui lui faisaient battre le cœur. « Elle est peut-être là !» se disait-il. Alors, si la rue était déserte, Il s'approchait d'une des maisons, levait le lourd marteau de la porte de la poterne basse et frappait timidement. Aussitôt, les chants, les rires cessaient. On n'entendait plus derrière la muraille que de petits chuchotements vagues, comme dans une volière endormie. « Tenons-nous bien, » pensait le héros, « il va m'arriver quelque chose. » Ce qui lui arrivait le plus souvent, c'était une grande potée d'eau froide sur la tête, ou bien des peaux d'orange ou de figues de Barbarie. Jamais rien de grave. Lion de l'Atlas dormait. Chapitre 9. Le prince Grégory du Monténégro. Il y avait deux grandes semaines que l'infortuné Tartarin cherchait sa dame algérienne, et très vraisemblablement il la chercherait encore si la providence des amants n'était venue à son aide sous les traits d'un gentilhomme monténégrin. Voici. En hiver, toutes les nuits de samedi, le grand théâtre d'Alger donne son bal masqué, ni plus ni moins que l'opéra. C'est l'éternel et insipide bal masqué de province. Peu de monde dans la salle, quelques épaves de bullier ou du casino, vierges folles suivant l'armée, chicards fanés, débardeurs en déroute, et cinq ou six petites blanchisseuses mahonnaises qui se lancent, mais gardent de leur temps de vertu un vague parfum d'ail et de sauce safranée. Le vrai coup d'œil n'est pas là. Il est au foyer, transformé pour la circonstance en salon de jeu. Une foule fiévreuse et bariolée s'y bouscule autour des longs tapis verts. Des turcos en permission, misant les gros sous du prêt, des morts marchands de la ville haute, des nègres, des maltais, des colons de l'intérieur qui ont fait 40 lieues pour venir hasarder sur un as l'argent d'une charrue ou d'un couple de bœufs, tous frémissants, pâles, les dents serrées, avec ce regard singulier du joueur, trouble, en biseau, devenu louche à force de fixer toujours la même carte. Plus loin, ce sont des tribus de juifs algériens jouant en famille. Les hommes ont le costume oriental hideusement agrémenté de bas bleus et de casquettes de velours. Les femmes, bouffies et blafardes, se tiennent toutes raides dans leurs étroits plastrons d'or. Groupée autour des tables, toute la tribu piaille, se concerte, compte sur ses doigts et joue peu. De temps en temps seulement, après de longs conciliabules, un vieux patriarche à barbe de père éternel se détache et va risquer le douro familial. C'est alors, tant que la partie dure, un scintillement d'yeux hébraïques tourné vers la table. Terribles yeux, des mains noires qui font frétiller les pièces d'or sur le tapis et finissent par les attirer tout doucement comme par un fil. Puis des querelles, des batailles, des jurons de tous les pays, des cris fous dans toutes les langues, des couteaux qu'on dégaine, la garde qui monte, de l'argent qui manque. C'est au milieu de ces saturnales que le grand Tartarin était venu s'égarer un soir pour chercher l'oubli et la paix du cœur. Le héros s'en allait seul dans la foule, pensant à sa mauresque, quand, parmi les cris, tout à coup à une table de jeu, par-dessus le bruit de l'or, deux voix irritées s'élevèrent. « Je vous dis qu'il me manque 20 francs, monsieur !»« Monsieur !»« Après ?»« Monsieur !»« Apprenez à qui vous parlez, monsieur !» « Je ne demande pas mieux, monsieur. »« Je suis le prince Grégory du Monténégro, monsieur. » À ce nom, Tartarin, tout ému, fendit la foule et vint se placer au premier rang, joyeux et fier de retrouver son prince, ce prince monténégrin si poli dont il avait ébauché la connaissance à bord du paquebot. Malheureusement, ce titre d'altesse qui avait tant ébloui le bon Tarasconnais ne produisit pas la moindre impression sur l'officier de chasseurs avec qui le prince avait son algarade. « Me voilà bien avancé, fit le militaire en ricanant. Puis, se tournant vers la galerie, « Grégory du Monténégro ? Qui connaît ça ? Personne ?» Tartarin, indigné, fit un pas en avant. « Pardon, je connais le prince !» dit-il d'une voix très ferme et de son plus bel accent tarasconnais. L'officier de chasseur le regarda un moment bien en face, puis, levant les épaules, « Allons, c'est bon, partagez-vous les 20 francs qui manquent et qu'il n'en soit plus question. » Là-dessus, il tourna le dos et se perdit dans la foule. Le fougue Tartarin voulait s'élancer derrière lui, mais le prince l'en empêcha. « Laissez, j'en fais mon affaire !» Et prenant le tarasconnais par le bras, il l'entraîna dehors rapidement. Dès qu'ils furent sur la place, le prince Grégory du Monténégro se découvrit, tendit la main à notre héros et, se rappelant vaguement son nom, commença d'une voix vibrante « Monsieur Barbarin, Tartarin !» souffla l'autre timidement. « Tartarin, Barbarin, n'importe. Entre nous maintenant, c'est à la vie, à la mort. » Et le noble Monténégrin lui secoua la main avec une farouche énergie. « Vous pensez si le Tarasconnais était fier ?»« Prince, prince !» répétait-il avec ivresse. Un quart d'heure après, ces deux messieurs étaient installés au restaurant des Platanes, agréable maison de nuit dont les terrasses plongent sur la mer, et là, devant une forte salade russe arrosée d'un joli vin de Crescia, on renoua connaissance. Vous ne pouvez rien imaginer de plus séduisant que ce prince monténégrin. Mince, fin, les cheveux crépus frisés au petit fer, rasés à la pierre ponce, constellés d'ordres bizarres, il avait l'air futé, le geste câlin et un accent vaguement italien qui lui donnait un faux air de Mazarin sans moustache. Très ferré d'ailleurs sur les langues latines et citant tout à propos Tacite, Horace et les commentaires. De vieille race héréditaire, ses frères l'avait, paraît-il, exilé dès l'âge de 10 ans à cause de ses opinions libérales. Et depuis, il courait le monde pour son instruction et son plaisir, en altesse philosophe. Coïncidence singulière, le prince avait passé 3 ans à Tarascon et comme Tartarin s'étonnait de ne l'avoir jamais rencontré au cercle ou sur l'esplanade, « Je sortais peu !» fit l'altesse d'un ton évasif. Et le Tarasconnais, par discrétion, n'osa pas en demander davantage. Toutes ces grandes existences ont des côtés si mystérieux. En fin de compte, un très bon prince, ce seigneur Grégory. Tout en sirotant le vin rosé de Crescia, il écouta patiemment Tartarin lui parler de sa mauresque. Et même, il se fit fort, connaissant toutes ces dames, de la retrouver promptement. On but sec et longtemps. On trinqua aux dames d'Alger. On montait négro libre. Dehors, sous la terrasse, la mer roulait et les vagues dans l'ombre battaient la rive avec un bruit de drap mouillé qu'on secoue. L'air était chaud, le ciel plein d'étoiles. Dans les platanes, un rossignol chantait. Ce fut Tartarin qui paya la note.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Jolie pour vous, présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 10. Dis-moi le nom de ton père et je te dirai le nom de cette fleur. « Parlez-moi des princes monténégrins pour lever lestement la caille. » Le lendemain de cette soirée au platane, dès le petit jour, le prince Grégory était dans la chambre du Tarasconnais. « Vite, vite, habillez-vous. Votre mauresque est retrouvée. Elle s'appelle Baïa. 20 ans, jolie comme un cœur et déjà veuve. Veuve ? Quelle chance ! Fit joyeusement le brave Tartarin qui se méfiait des maris d'Orient. Oui, mais très surveillé par son frère. Ah, diantre ! Un mort farouche qui vend des pipes au bazar d'Orléans. Ici, un silence. Bon, reprit le prince, vous n'êtes pas homme à vous effrayer pour si peu. Et puis, on viendra peut-être à bout de ce Forban en lui achetant quelques pipes. Allons vite, habillez-vous, heureux coquin. Pâle, ému, le cœur plein d'amour, le Tarasconnais sauta de son lit et boutonnant à la hâte son vaste caleçon de flanelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Écrire à la dame tout simplement et lui demander un rendez-vous. Elle sait donc le français ? Fit d'un air désappointé le naïf Tartarin qui rêvait d'Orient sans mélange. Elle n'en sait pas un mot, répondit le prince imperturbablement. Mais vous allez me dicter la lettre et je traduirai à mesure. Oh, prince, que de bonté ! Et le Tarasconnais se mit à marcher à grands pas dans la chambre, silencieux et se recueillant. Vous pensez qu'on n'écrit pas à une mauresque d'Alger comme à une grisette de Beaucaire ? Fort heureusement que notre héros avait par devers lui ces nombreuses lectures qui lui permirent, en amalgamant la rhétorique apache des Indiens de Gustave Aimard, avec le voyage en Orient de Lamartine et quelques lointaines réminiscences du Cantique des Cantiques, de composer la lettre la plus orientale qu'il se put voir. Cela commençait par « Comme l'autruche dans les sables » et finissait par « Dis-moi le nom de ton père et je te dirai le nom de cette fleur. » À cet envoi, le romanesque Tartarin aurait bien voulu joindre un bouquet de fleurs emblématiques à la mode orientale. Mais le prince Grégory pensa qu'il valait mieux acheter quelques pipes chez le frère, ce qui ne manquerait pas d'adoucir l'humeur sauvage du monsieur et ferait certainement très grand plaisir à la dame, qui fumait beaucoup. « Allons vite acheter les pipes !» fit Tartarin plein d'ardeur. « Non, non, laissez-moi y aller seul, je les aurai à meilleur compte. »« Comment ? Vous voulez ? Oh, prince, prince !» Et le brave homme tout confus tendit sa bourse à l'obligeant monténégrin en lui recommandant de ne rien négliger pour que la dame fût contente. Malheureusement, l'affaire, quoique bien lancée, ne marcha pas aussi vite qu'on aurait pu l'espérer. Très touché, paraît-il, de l'éloquence de Tartarin et du reste aux trois quarts séduites par avance, la mauresque n'aurait pas mieux demandé que de le recevoir. Mais le frère avait des scrupules. Et pour les endormir, il lui fallut acheter des douzaines, des grosses, des cargaisons de pipes. Qu'est-ce que diable Baïa peut faire de toutes ces pipes ? Se demandait parfois le pauvre Tartarin. Mais il paya quand même et sans lésiner. Enfin, après avoir acheté des montagnes de pipes et répandu des flots de poésie orientale, on obtint un rendez-vous. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quel battement de cœur le Tarasconnais s'y prépara. Avec quel soin ému, il tailla, lustra, parfuma sa rude barbe de chasseur de casquettes, sans oublier, car il faut tout prévoir, de glisser dans sa poche un casse-tête à pointe et deux ou trois revolvers. Le prince, toujours obligeant, vint à ce premier rendez-vous en qualité d'interprète. La dame habitait dans le haut de la ville. Devant la porte, un jeune mort de 13 ou 14 ans fumait des cigarettes. C'était le fameux Ali, le frère en question. En voyant arriver les deux visiteurs, il frappa deux coups à la poterne et se retira discrètement. La porte s'ouvrit. Une négresse parut qui, sans dire un seul mot, conduisit ces messieurs à travers l'étroite cour intérieure dans une petite chambre fraîche où la dame attendait, accoudée sur son lit bas. Au premier abord, elle parut au Tarasconnais plus petite et plus forte que la mauresque de l'omnibus. Au fait, était-ce bien la même ? Mais ce soupçon ne fit que traverser le cerveau de Tartarin comme un éclair. La dame était si jolie ainsi, avec ses pieds nus, ses doigts grassouillés chargés de bagues, roses fines, et sous son corselet de drap doré, sous les ramages de sa robe à fleurs, laissant deviner une aimable personne un peu boulotte, friande à point et ronde de partout. Le tuyau d'ambre d'un narguilé fumé à ses lèvres et l'enveloppait toute d'une gloire de fumée blonde. En entrant, le Tarasconnais posa une main sur son cœur et s'inclina le plus mauresquement possible en roulant de gros yeux passionnés. Baïa le regarda un moment sans rien dire. Puis, lâchant son tuyau d'ambre, se renversa en arrière, cacha sa tête dans ses mains, et l'on ne vit plus que son cou blanc, qu'un fou rire faisait danser comme un sac rempli de perles. Chapitre 11. Sidi Tarte rit, Ben Tarte rit. Si vous entriez un soir à la veillée chez les cafetiers algériens de la ville haute, vous entendriez encore aujourd'hui les morts causer entre eux avec des clignements d'yeux et de petits rires d'un certain Sidi Tartri, Ben Tartri, européen aimable et riche qui, voici quelques années déjà, vivait dans les hauts quartiers avec une petite dame du cru appelée Baïa. Le Sidi Tartri en question, qui a laissé de si gais souvenirs autour de la Casbah, n'est autre, on le devine, que notre Tartarin. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a comme cela dans la vie des saints et des héros, des heures d'aveuglement, de troubles, de défaillance. L'illustre Tarasconnais n'en fut pas plus exempt que notre, et c'est pourquoi, 2 mois durant, oublieux des lions et de la gloire, il se grisa d'amour oriental et s'endormit comme Hannibal à Capoue dans les délices d'Alger la Blanche. Le brave homme avait loué au cœur de la ville arabe une jolie maisonnette indigène avec cour intérieure, bananier, galerie fraîche et fontaine. Il vivait là, loin de tout bruit, en compagnie de sa mauresque. Mort lui-même de la tête aux pieds, soufflant tout le jour dans son narguilé et mangeant des confitures au musc. Étendu sur un divan en face de lui, Baïa, la guitare au poing, nasillait des airs monotones, ou bien pour distraire son seigneur, elle mimait la danse du ventre en tenant à la main un petit miroir dans lequel elle mirait ses dents blanches et se faisait des mines. Comme la dame ne savait pas un mot de français, ni Tartarin un mot d'arabe, la conversation languissait quelquefois, et le bavard Tarasconnais avait tout le temps de faire pénitence pour les intempérances de son langage, dont il s'était rendu coupable à la pharmacie Bézuquet ou chez l'armurier contestable Constal. Mais cette pénitence même ne manquait pas de charme. Et c'était comme un spleen voluptueux qu'il éprouvait à rester là tout le jour sans parler, en écoutant le glou-glou du narguilé, le frôlement de la guitare et le bruit léger de la fontaine dans les mosaïques de la cour. Le narguilé, le bain, l'amour emplissaient toute sa vie. On sortait peu. Quelquefois, Sidi Tartri, sa dame en croupe, s'en allait sur une brave mule manger des grenades à un petit jardin qu'il avait acheté aux environs. Mais jamais, au grand jamais, il ne descendait dans la ville européenne. avec ses zouaves en ribote, ses alcazars bourrés d'officiers et son éternel bruit de sabre traînant sous les arcades, cet Alger-là lui semblait insupportable et laid comme un corps de garde d'Occident. En somme, le Tarasconnais était très heureux. Tartarin Sancho, surtout, très friand de pâtisserie turque, se déclarait on ne peut plus satisfait de sa nouvelle existence. Tartarin Quichotte, lui, avait bien par-ci par-là quelques remords en pensant à Tarascon et aux peaux promises. Mais cela ne durait pas, et pour chasser ces tristes idées, il suffisait d'un regard de Baïa ou d'une cuillerée de ces diaboliques confitures odorantes et troublantes comme des breuvages de Circé. Le soir, le prince Grégory venait parler un peu du Monténégro libre. D'une complaisance infatigable, cet aimable seigneur remplissait dans la maison les fonctions d'interprète, au besoin même celle d'intendant. Et tout cela pour rien, pour le plaisir. À part lui, Tartarin ne se vêt que de tort. Tous ces forbans à tête farouche qui naguère lui faisaient tant de peur du fond de leurs noires échoppes se trouvèrent être, une fois qu'il les connut, de bons commerçants inoffensifs, des brodeurs, des marchands d'épices, des tourneurs de tuyaux de pipe, tous gens bien élevés, humbles, finaux, discrets et de première force à la bouillotte. 4 ou 5 fois par semaine, ces messieurs venaient passer la soirée chez Sidi Tartari, lui gagner son argent, lui manger ses confitures et sur le coup de 10 heures se retirer discrètement en remerciant le prophète. Derrière eux, Sidi Tartari et sa fidèle épouse finissaient la soirée sur la terrasse, une grande terrasse blanche qui faisait toit à la maison et dominait la ville. Tout autour, un millier d'autres terrasses blanches aussi, tranquilles sous le clair de lune, descendaient en s'échelonnant jusqu'à la mer. Des fredons de guitare arrivaient, portés par la brise. Soudain, comme un bouquet d'étoiles, une grande mélodie claire s'égrenait doucement dans le ciel. Et sur le minaret de la mosquée voisine, un beau muezzin apparaissait, découpant son ombre blanche dans le bleu profond de la nuit et chantant la gloire d'Allah avec une voix merveilleuse qui remplissait l'horizon. Aussitôt, Baïa, lâchait sa guitare et ses grands yeux tournés vers le muezzin, semblait boire la prière avec délice. Tant que le chant durait, elle restait là, frissonnante, extasiée, comme une sainte Thérèse d'Orient. Tartarin, tout ému, la regardait, priait et pensait en lui-même que c'était une forte et belle religion, celle qui pouvait causer des ivresses de foi pareilles. Tarascon, voile-toi la face, ton Tartarin songeait à se faire renégat.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Joli pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 12. On nous écrit de Tartarin. On nous écrit de Tarascon. Par une belle après-midi de ciel bleu et de brise tiède, Sidi Tartari à califourchon sur sa mule revenait tout scellé de son petit clos, les jambes écartées par de larges coussins en sparterie que gonflaient les cédras et les pastèques, bercés au bruit de ses grands étriers, et suivant de tout son corps le baling-balan de la bête, le brave homme s'en allait ainsi dans un paysage adorable, les deux mains croisées sur son ventre aux 3 quarts assoupis par le bien-être et la chaleur. Tout à coup, en entrant dans la ville, un appel formidable le réveilla. « Hé ! Monstre de sort, on dirait Monsieur Tartarin !» À ce nom de Tartarin, à cet accent joyeusement méridional, le Tarasconnais leva la tête et aperçut à 2 pas de lui la brave figure tannée de maître Barbassou, le capitaine du zouave qui prenait l'absinthe en fumant sa pipe sur la porte d'un petit café. Hé hey, adieu, Barbassou, fit Tartarin en arrêtant sa mule. Au lieu de lui répondre, Barbassou le regarda un moment avec de grands yeux. Puis le voilà parti à rire tellement que Sidi Tartri en resta tout interloqué, le derrière sur ses pastèques. « Qu'est turban, mon pauvre monsieur Tartarin ? C'est donc vrai ce qu'on dit ? Que vous vous êtes fait teur ? Et la petite Baïa, est-ce qu'elle chante toujours Marco la Belle ?»« Marco la Belle ?» fit Tartarin indigné. « Apprenez, capitaine, que la personne dont vous parlez est une honnête fille morte et qu'elle ne sait pas un mot de français. » « Baïa ? Pas un mot de français ? D'où sortez-vous donc ?» Et le brave capitaine se remit à rire plus fort. Puis, voyant la mine du pauvre Sidi Tartri qui s'allongeait, il se ravisa. « Au fait, ce n'est peut-être pas la même, mais tant que j'ai confondu. Seulement, voyez-vous, monsieur Tartarin, vous ferez tout de même bien de vous méfier des mauresques algériennes et des princes du Monténégro. » Tartarin se dressa sur ses étriers en faisant sa moue. « Le prince est mon ami, capitaine. »« Bon, bon, ne nous fâchons pas. Vous ne prenez pas une absinthe, non ? Rien à faire dire au pays ? Non plus ? Eh bien, alors bon voyage. À propos, collègue, j'ai là du bon tabac de France. Si vous en vouliez emporter quelques pipes, prenez donc, ça vous fera du bien. Ce sont vos sacrés tabacs d'Orient qui vous barbouillent les idées. » Là-dessus, le capitaine retourna à son absinthe et Tartarin, tout pensif, reprit au petit trot le chemin de sa maisonnette. Bien que sa grande âme se refusât à rien en croire, les insinuations de Barbassou l'avaient attristé. Puis, ses jurons du cru, l'accent de là-bas, tout cela éveillait en lui de vagues remords. Au logis, il ne trouva personne. Baïa était au bain. La négresse lui parut laide, la maison triste. En proie à une indéfinissable mélancolie, il vint s'asseoir près de la fontaine et bourra une pipe avec le tabac de Barbassou. Ce tabac était enveloppé dans un fragment du sémaphore. En le déployant, le nom de sa ville natale lui sauta aux yeux. Il lut. On nous écrit de Tarascon. La ville est dans les transes. Tartarin, le tueur de lions, parti pour chasser les grands félins en Afrique, n'a pas donné de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Qu'est devenu notre héros compatriote ? On ose à peine se le demander. Quand on a connu comme nous cette tête ardente, cette audace, ce besoin d'aventure, a-t-il été, comme tant d'autres, englouti dans le sable, ou bien est-il tombé sous la dent meurtrière d'un de ces monstres de l'Atlas, dont il avait promis les peaux à la municipalité ? Terrible incertitude ! Pourtant, des marchands de nègres, venus à la foire de Beaucaire, prétendent avoir rencontré en plein désert un Européen dont le signalement se rapportait au sien et qui se dirigeait vers Tombouctou. Dieu nous garde, notre Tartarin ! Quand il lut cela, le Tarasconnais rougit, pâlit, frissonna. Tout Tarascon lui apparut. Le cercle, les chasseurs de casquettes, le fauteuil vert chez Costecalde, et planant au-dessus d'eux, tout cela, comme un aigle déployé, la formidable moustache du brave commandant Bravida. Alors, de se voir là, comme il était, lâchement accroupi sur sa natte, tandis qu'on le croyait en train de massacrer des fauves, Tartarin de Tarascon eut honte de lui-même et pleura. Tout à coup, le héros bondit. « Au lion ! Au lion !» Et s'élançant dans le réduit poudreux où dormaient la tente abri, la pharmacie, les conserves, la caisse d'armes, il les traîna au milieu de la cour. Tartarin Sancho venait d'expirer. Il ne restait plus que Tartarin Quichotte. Le temps d'inspecter son matériel, de s'armer, de se harnacher, de rechausser ses grandes bottes, d'écrire deux mots au prince pour lui confier Baïa, Le temps de glisser sous l'enveloppe quelques billets bleus mouillés de larmes et l'intrépide Tarasconnais roulait en diligence sur la route de Blida, laissant à la maison sa négresse stupéfaite devant le narguilé, le turban, les babouches, toute la défroque musulmane de Sidi Tartri qui traînait piteusement sous les petits trèfles blancs de la galerie. Troisième épisode. La recherche de la mauresque jeune et belle s'est soldée par une rencontre facilitée par un prince de Monténégro. Une négresse plus petite, plus forte que dans le souvenir de Tartarin. Mais elle était si jolie que Tartarin ne pouvait pas refuser Baïa. Le narguilé et la guitare, les pâtisseries et la terrasse blanche. Lion de l'Atlas dormait jusqu'à ce que... Une rencontre inattendue avec le capitaine du navire qui l'avait amené ici donne à réfléchir à Tartarin. Surtout après que celui-ci découvre un morceau de journal autour du tabac donné par le capitaine Barbassou. Ce morceau de journal tarasconnais faisait état de l'attente inquiète des Tarasconnais sans nouvelles de Tartarin depuis longtemps. Que lui était-il arrivé? Il était supposé affronter et tirer les lions pour ramener les pots commandés par ses amis. C'est là que Tartarin Quichotte refait surface en laissant de côté Tartarin Sancho. Nous savons comment, dans notre prochaine lecture, nous saurons bientôt ce qui va se passer. N'oubliez pas d'écouter la suite! Dans « Je lis pour vous », en direct ou en rediffusion sur Radio Alliance Plus ou en podcast sur notre site. À bientôt, chers auditeurs. Tartarin est toujours là.